Leçon 8. Méthode de Jésus. Introduction. Lisez Matthieu 19, 16 à 22. Qu'est-ce qui vous surprend à propos de la réponse de Jésus à cet homme? Si vous avez entendu un ami, donnez cette réponse à une personne qui a demandé comment avoir la vie éternelle, que voudriez-vous expliquer à votre ami? Le cadeau mal compris. Imaginez que vous êtes en bonne santé, mais un ami vous vient et dit qu'il a acheté le remède contre une certaine maladie mortelle. Une grande partie du contenu de cette leçon a été présentée par Ray Comfort dans le sermon « Hell's Best Kept Secret » et dans le livre du même titre. Pour l'acheter, il a vendu sa maison et tout ce qu'il avait. Il a acheté le remède pour vous. Sujet de réflexion. Que diriez-vous à votre ami quand il vous a donné ce cadeau ? Vous le remercierez pour sa générosité, mais vous ne comprenez pas le cadeau. Pourquoi donnerait-il tellement à acheter pour vous quelque chose dont vous n'avez pas besoin? Maintenant, imaginez une histoire différente. Vous êtes allé chez le médecin et avez trouvé que vous aviez une maladie fatale. Le remède coûte très cher et vous n'avez aucun moyen de payer pour cela. Vous rentrez chez vous et pensez à la mort, réalisant que votre famille vous perdra et que vous ne pourrez jamais expérimenter ce que vous espérez de la vie. Ensuite, un ami vient et vous dit qu'il a donné tout ce qu'il devait acheter le remède pour vous. Vous l'appréciez parce que vous avez compris votre besoin d'abord. Son cadeau est la vie pour toi. Pensez maintenant à la réponse des personnes du monde quand ils entendent l'évangile. Le mot évangile signifie « bonne nouvelle », mais beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi c'est une bonne nouvelle. Imaginez un homme nommé Henri. Son ami lui dit « Jésus est mort sur la croix comme un sacrifice pour que tes péchés puissent être pardonnés. » Henri pense « Je ne suis pas une mauvaise personne. Je suis bon à mes amis et à ma famille. Pourquoi un si grand sacrifice serait-il nécessaire pour mes péchés? Pourquoi le pardon est-il si important ?» Henri pourrait être en colère que son ami pense qu'il est un si mauvais pécheur qu'il aurait besoin de la mort de Jésus pour son pardon. La Bible nous dit que les gens sont offensés par la croix. Les gens veulent trouver un moyen de se justifier. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin du sacrifice de Jésus, et la croix leur semble donc une folie. 1 Corinthiens 1:18. Comme l'illustration sur le remède contre la maladie, les gens n'apprécient pas la croix, car ils ne comprennent pas pourquoi ils en ont besoin. La façon biblique de préparer les gens à la bonne nouvelle est de leur montrer pourquoi elles en ont besoin. Ils doivent se rendre compte qu'ils sont des pécheurs qui seront bientôt jugés par Dieu. La signification du jugement. Le fait que les incroyants seront jugés et punis sont la raison la plus importante d'un incroyant d'être heureux d'entendre l'Évangile. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Matthieu 12, 36. Lisez la description du jugement à Apocalypse 20, 12 à 15. Le jugement futur des incroyants est la principale raison pour laquelle chaque incroyant a besoin de salut. Dieu ordonne à tout le monde de se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Actes 17, 30 à 31. Si une personne ne comprend pas que son péché est grave, il manque la raison la plus importante de désirer le salut. L'utilisation de la loi. Beaucoup de personnes ne s'intéressent pas à l'Évangile, car ils ne se considèrent pas coupables. La Bible dit que la plupart des gens se considèrent comme bons. Proverbe 20, 6. Si vous demandez à quelqu'un « il est une bonne personne », il dira probablement « oui » et sera prêt à se disputer pour lui-même. La plupart des gens pensent que leurs péchés ne sont pas diaboliques et qu'ils devraient être excusés. Offrir à ces personnes la grâce et le pardon n'a pas de sens. La personne doit se voir comme un pécheur et être reconnue coupable par sa conscience avant de pouvoir se voir avoir besoin de grâce. Dieu a donné à la loi pour montrer le péché. Par le terme « loi », nous ne voulons pas spécifiquement les exigences cérémonielles de l'Ancien Testament qui a dirigé le culte dans le temple. Nous ne parlons pas non plus de loi donnée pour le gouvernement israélien qui ne nous applique pas de la même manière. Nous parlons de la norme de justice de Dieu. Le roi David a écrit dans les psaumes 119 sur la façon dont il aimait la loi de Dieu, tout comme il aimait Dieu, car il venait du caractère sacré de Dieu. La loi de Dieu nous montre comment nous devrions vivre et nous sommes coupables de le désobéir. Personne ne sera justifié en gardant la loi. Galates 2, 16, Romains 3, 20. parce que tout le monde a déjà péché. Une personne utilise à tort la loi, s'il pense qu'essayer de le suivre, il gagnera son salut. La loi de Dieu dirige notre vie, 1 Corinthiens 9, 21, mais ce n'est pas le moyen de notre salut. La loi ne pouvait pas nous amener au salut, car nous n'avons pas la capacité de satisfaire parfaitement ses exigences de la naissance. Romains 8, 3, Galates 3, 21. La loi n'est pas opposée à l'Évangile dans le plan de Dieu. La Bible nous dit que la loi a pour but de faire comprendre à un non-croyant son besoin de salut. L'Évangile n'a pas détruit la loi, Matthieu 5, 17, et ne l'a pas rendue non pertinente pour nous. La loi sert de préparation parfaite pour l'Évangile, pas seulement dans l'Antiquité, mais toujours aujourd'hui. La loi est un maître d'école pour nous amener à Christ. Galates 3, 24. Certaines personnes pensent qu'il y avait une période de loi qui est finie, et il y a maintenant une période de grâce. Le fait est que chaque personne doit rencontrer la loi de Dieu et se rendre compte qu'il est condamné avant de pouvoir comprendre la grâce. L'apôtre Paul a déclaré « Mais je n'ai connu le péché que par la loi » Romains 7, 7. Paul a déclaré que la loi est donnée afin que les pécheurs soient ce coupable et sans excuse. Parce que par la loi, les gens se rendent compte qu'ils sont des pécheurs. Romains 3, 19 à 20. Chaque personne est sous la loi et condamnée par elle jusqu'à ce qu'il soit sauvé. L'Évangile n'est pas une bonne nouvelle à une personne qui ne sait pas que son péché est sérieux. L'Évangile est une bonne nouvelle d'une personne qui sait qu'il est coupable et bientôt pour faire face au jugement de Dieu. Lisez Luc 18, 10 à 14. Si quelqu'un avait dit aux pharisiens qu'il pouvait être librement pardonné par la grâce de Dieu, comment aurait-il répondu? Une erreur évangélique moderne. Aujourd'hui, de nombreux évangéliques n'aiment pas souligner que chaque personne est coupable de péché et mérite le jugement de Dieu. Ils ne veulent pas dire aux gens qu'ils sont mauvais. Ils veulent parler de choses positives au lieu du négatif. Ils veulent offrir des avantages immédiats du salut, au lieu des éternels, car ils parlent aux personnes qui se concentrent sur des choses de ce monde. Ils impliquent que la loi de Dieu est une mauvaise chose, un ennemi au salut, important uniquement pour les personnes qui veulent être sauvées par des œuvres. La Bible dit que la loi est bonne et sainte, Romains 7, 12 à 14. La personne qui veut plaire à Dieu va essayer de suivre les directions de Dieu pour la vie, Psaume 119, 1 à 8. Ils impliquent que la norme de Dieu est impossible et déraisonnable, et que vous n'êtes pas responsable de vos péchés. Le problème est que si une personne n'est pas vraiment coupable, elle ne peut pas vraiment se repentir. Il ne peut pas être désolé pour ce qu'il a fait, à moins d'être sait qu'il a choisi de faire de mal. Si une personne ne croit pas vraiment être un pécheur lorsqu'il demande un pardon, il demande vraiment que l'acceptation de Dieu de ses défaillances humaines. Le fait est que les incroyants ne sont pas condamnés à être nés avec une nature pécheresse. Ils sont condamnés pour leurs péchés volontaires et leurs attitudes de rébellion contre Dieu, Jude 1, 15. Beaucoup de gens croient dire que Dieu est aimant et qu'il pardonne, mais ils ne réalisent pas qu'il est aussi un juge juste. Ils s'attendent à ce que, s'ils rencontrent Dieu, il leur pardonne même s'ils ne se sont jamais repentis. L'évangile incomplet qu'ils ont entendu les a confortés dans leurs péchés. De nombreux évangéliques modernes soulignent que si une personne devient convertie, il aura une vie plus heureuse. Ils disent que le péché ne satisfait pas, mais Dieu fait. Ils disent qu'une personne recevra l'amour, la paix et la joie. Ils disent que Dieu a un plan merveilleux pour la vie de chaque personne, et que le plan sera rempli si une personne devient un suiveur de Dieu. Ces promesses peuvent être mal comprises. Dieu donne l'amour et la paix, mais il y aura des conflits entre croyants et personnes qui rejetteront Dieu. Matthieu 10, 34 à 36. Il donne de la joie, mais il peut y avoir une persécution en même temps. 1 Thessaloniciens 1, 6. Il a un plan merveilleux pour chaque personne, mais un croyant peut rencontrer des situations et des tragédies difficiles. 2 Corinthiens 11, 24 à 27. Si une personne décide de devenir croyant parce qu'il pense que la condition de sa vie sera meilleure, il peut être déçu. Certaines personnes souffrent sévèrement à cause de leur foi en Christ. En tant que disciples du Christ, nous comprenons que la vie avec Dieu est merveilleuse, même si nous subissons des conditions difficiles. On peut dire que servir Dieu est une vie merveilleuse. Cependant, la plupart des incroyants n'ont pas la bonne idée de la vie merveilleuse. Si vous leur demandez de décrire une vie merveilleuse, ils parlent de la santé, de l'argent, de la liberté, de la paix et d'autres bonnes conditions. Il ne comprendrait pas que le suiveur persécuté et souffrant de Christ a une vie merveilleuse. Donc, si vous dites à un incroyant que s'il suit le Christ, il aura une vie merveilleuse, il ne comprendra probablement pas ce que vous promettez. Il y a un autre problème avec une fausse compréhension de l'Évangile. Une personne peut accepter le message sans se voir comme un jugement méritant pécheur. Parce qu'il ne voit pas la gravité du péché, il ne se repent pas vraiment. Il ne cherche pas le salut du péché, mais pour d'autres avantages. Il peut penser qu'il est sauvé quand il n'est vraiment pas. Il ne reçoit même pas de vrais avantages du salut pour sa vie, car il n'est pas vraiment converti. Il essaie un peu de temps, alors abandonne alors la déception. Le pire résultat du mauvais évangile est que la personne déçue est moins susceptible de répondre à l'évangile à l'avenir. En résumé, les problèmes de l'évangile d'une vie meilleure sont 1. Il promet de ce que Dieu ne promet pas. 2. Il est mal compris par l'incroyant. 3. La personne peut ne pas être vraiment convertie. 4. Il n'obtiendra pas les avantages qu'il attend. 5. Il est moins susceptible d'accepter l'évangile à l'avenir. Lisez Actes 14, 21 à 23. Qu'est-ce que les apôtres ont dit de nouveaux convertis à s'attendre ? Jésus a averti ses disciples que les gens les détesteraient à cause de leur foi en Christ. Il leur a dit qu'ils ne seraient de pas sauvés à moins d'avoir enduré jusqu'à la fin. Trois des écrivains de l'Évangile ont enregistré ces mots. Matthieu 10, 22, Marc 13, 13, Luc 20 et 1, 17. La plupart des apôtres originaux sont morts pour Christ. Des millions de croyants en Christ ont été tués pour leur foi. Ce n'est pas simplement un problème ancien. Plus de la moitié des martyrs chrétiens ont été tués au XXe siècle. Si une personne est convertie en raison de la promesse de salut, sans la promesse d'une vie facile, il n'abandonnera pas à cause d'une vie difficile. Il est prêt à supporter les essais pour le salut éternel. Les essais rendent le salut encore plus précieux pour lui. Démontrant l'amour. Lisez 2 Timothée 2, 24 à 26. Qu'est-ce que ces versets nous parlent de la manière de l'évangéliste ? L'évangéliste ne devrait pas sembler se battre avec les personnes qu'il évangélise. Satan est l'ennemi et les incroyants sont des prisonniers de Satan. Nous devrions expliquer la vérité avec la douceur. Notre objectif est de les aider, de ne pas les vaincre en arguments. Les mots utilisés dans ce passage comprennent la douceur et la patience. Lisez Tite 3, 2 à 5. Que dit ce passage sur le comportement de l'évangéliste ? Nous devrions nous rappeler que sans la grâce de Dieu, nous serions comme les peuples du monde. Dieu nous est venu à nous pas avec jugement, mais avec gentillesse et amour. Un évangéliste ne doit pas sembler en colère contre l'incroyant, mais au péché et à Satan. Il ne devrait pas sembler dur. Il ne devrait pas sembler heureux de trouver leurs erreurs, mais préoccupé par leur salut. Nous avons appris dans cette leçon que nous ne montrons pas l'amour aux incroyants en promettant des choses que Dieu ne promet pas. Nous ne montrons pas de compassion en agissant comme si les problèmes de leur vie sont plus importants que leur destin éternel. Jésus a répondu à la prédiction que le Messie ne serait pas une personne violente, mais douce et n'écraserait pas la personne déjà blessée par le péché. Matthieu 12, 19 à 20. Évangélisme biblique. L'approche biblique de l'évangélisation consiste à utiliser la loi de Dieu pour préparer les gens à recevoir l'Évangile. La loi condamne les incroyants et leur montre qu'ils seront jugés à moins qu'ils ne trouvent pardon. Jean-Baptiste a prêché que les gens devaient se repentir de se préparer à la venue du Seigneur et de l'évasion de jugement. Matthieu 3, 1 à 12. Jésus a prêché à propos du jugement et de l'enfer plusieurs fois. Il a offert la grâce à ceux qui étaient désolés pour leurs péchés. Lisez Luc 7, 36 à 50. Quel genre de personne a offert le pardon ? Nous ne trouvons pas au ministère de Jésus qu'il a offert le pardon aux personnes qui n'étaient pas désolées pour leurs péchés. Il a prévenu des personnes du jugement. Après une catastrophe, lorsque beaucoup de gens ont été tués, Jésus a dit à une foule qu'ils périssent à moins qu'ils ne se repentissent. Luc 13, 1 à 5. Jésus a raconté l'histoire du collecteur d'impôts et du pharisien qui priaient des prières opposées. Le collecteur d'impôts était désolé et a reçu le pardon. Le pharisien a essayé de se justifier. Cela n'aurait pas eu de sens d'offrir le pardon au pharisien parce qu'il ne croyait pas qu'il en avait besoin. L'apôtre Pierre a prêché la promesse de la vie éternelle et a appelé les gens à se repentir et à recevoir le pardon. Acte 2, 38, Acte 3, 19, Acte 5, 30 et 1. Étienne, prêché aux dirigeants juifs, n'a pas offert de grâce, mais a condamné à eux de résister à Dieu et de briser sa loi. Actes 7, 51 à 53. Paul a prêché que les gens se repentent parce que Dieu n'excusera pas le péché. Actes 17, 30 à 31. Il n'est pas faux de parler de joie et de bénédiction qui vient d'être un suiveur de Christ. Mais la principale méthode d'évangéliste dans la Bible était de prêcher la condamnation du péché et de la repentance, offrant le salut du jugement. Lisez 2 Corinthiens 5, 11. Qu'est-ce que l'apôtre a dit qu'il avait utilisé pour la persuasion? Lisez Actes 24, 25. Qu'est-ce que Paul a dit à Félix? Comment Félix a-t-il été touché? Un exemple d'évangélisation biblique? François distribuait des invitations à l'église lorsqu'il rencontra Pierre. Pierre, je n'ai pas besoin d'église. François, la Bible dit que chaque personne se tiendra devant Dieu d'être jugée pour ses péchés. Pensez-vous que Dieu vous acceptera comme vous êtes? Pierre, oui, je pense que oui. François, es-tu une bonne personne? Pierre, oui, je pense que je suis. François, vous êtes peut-être bon comparé à beaucoup de gens. Peut-être que vous êtes bon à vos amis et à votre famille. Mais connaissez-vous la norme que Dieu utilise? La Bible nous dit comment Dieu juge bien et mal. Par exemple, certaines de ces règles s'appellent les 10 commandements. Connaissez-vous les 10 commandements? Pierre, certains d'entre eux. François, par exemple, un commandement dit « Ne témoignez pas témoin faussement ». Avez-vous déjà dit dans votre vie quelque chose qui n'était pas vrai? Pierre, bien sûr, tout le monde l'a fait parfois. François, mais mentez enfreint le commandement de Dieu. Un autre est de ne pas voler. Avez-vous déjà volé quelque chose? Pierre, seule petite chose, et je n'ai jamais fait que quelqu'un en souffre en volant d'eux. François, mais Dieu ne nous laisse pas décider ce que nous pouvons voler. Il nous ordonne de ne pas voler. Un autre commandement est que nous ne prenions jamais le nom de Dieu en vain, en le prononçant sans révérence ou en l'utilisant comme un juron. Chacun des commandements peut être utilisé, mais tous ne doivent pas être utilisés dans une conversation. Vous trouverez ci-dessous des exemples. Dieu nous dit de ne pas s'engager adultère et que Jésus a dit que la convoitise pour une femme est de commettre l'adultère dans votre cœur. Dieu a dit de ne pas tuer et Jésus a dit que la haïr quelqu'un est la même chose que le meurtre dans le cœur. Dieu nous dit de garder sa journée sacrée. Avez-vous toujours gardé le saint de la journée du Seigneur chaque semaine? Dieu nous dit de ne pas convoiter, de ne pas penser que les choses nous rendront heureux au lieu de Dieu, souhaitant que nous ayons eu ce que d'autres ont. Dieu nous dit de ne pas avoir d'autre Dieu, de ne pas laisser autre chose d'autre que lui, ce qui signifie que nous ne laissons rien garder à nous empêcher d'obéir et de vénérer Dieu comme il mérite. Après avoir utilisé plusieurs commandements pour montrer que la personne est coupable, nous allons à la conclusion. François, si Dieu vous a jugé aujourd'hui, vous ne passeriez pas. Vous seriez coupable par sa norme. Souhaitez-vous savoir comment être pardonné pour que vous n'ayez pas à craindre le jugement de Dieu? Ensuite, l'évangéliste peut partager l'évangile et inviter la personne à prier. Comment savez-vous si une présentation évangélique a été réussie? Évidemment, si une personne choisit de se repentir et de devenir un suiveur de Jésus après notre présentation de l'Évangile, nous savons que cela a été réussi. Mais ce n'est pas la seule mesure du succès. Dieu est celui qui est responsable d'attacher la vérité sur le cœur de l'auditeur. Si vous avez présenté l'Évangile de manière que l'auditeur comprenne, vous avez accompli quelque chose d'important, même si vous ne voyez jamais les résultats. S'il sentait votre préoccupation et désir de l'aider, c'est bien, aussi. S'il était en colère ou moqueur, cela ne signifie pas que vous avez échoué, surtout s'il était en colère contre la vérité. Dieu est honoré par le message de l'Évangile. Lorsque vous le communiquez, vous réussissez à quelque chose d'important.